Radio de la Paix, la grande interview.
Ben Diakité.
Bonjour, monsieur l'ambassadeur Richard Bell. Radio de la Paix vous remercie de lui accorder cette interview. En prélude au sommet des dirigeants États-Unis-Afrique qui aura lieu du 13 au 15 décembre 2022 à Washington.
Bonjour et merci de m'avoir invité sur Radio de la Paix. Et félicitations pour vos nouveaux locaux.
Également, nous évoquerons dans cet entretien la contribution des États-Unis à la lutte contre le VIH-Sida ainsi que les questions liées aux relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis.
Radio de la Paix. Se parler. S'écouter. Se comprendre.
Monsieur l'ambassadeur Richard Bell, pourquoi ce sommet États-Unis-Afrique? Quels en sont les enjeux?
Alors, ce sommet, il était temps de faire ce sommet parce que le dernier remonte à 2014 sous le président Obama. Le président Biden reconnaît l'importance stratégique de l'Afrique avec sa population en forte croissance et donc une population jeune. Si les choses continuent comme ça, d'ici 2050, le quart de la population de la planète sera africain. Et il y a beaucoup de pays souverains en Afrique, donc avec beaucoup de voix, beaucoup de votes dans les instances multilatérales, les Nations Unies, etc. Et il y a bien d'autres facteurs qui font que le président Biden voulait avoir l'occasion de renforcer les liens avec les pays africains et surtout se donner l'occasion d'écouter les chefs d'État africains, dont le président Ouattara.
Alors, selon le président Biden, cette rencontre s'appuiera sur nos valeurs communes pour mieux favoriser l'engagement économique et promouvoir la démocratie et les droits de l'homme. Concrètement, comment cela va se décliner?
Alors, un sommet, c'est une rencontre entre chefs d'État ou au moins chefs de gouvernement. Donc, par définition, un sommet, c'est une rencontre vraiment de haut niveau. Mais il va y avoir aussi des événements avec le secteur privé, avec la société civile. Il va y avoir beaucoup d'occasions pour les hauts responsables américains, non seulement le président Biden, mais la vice-présidente Kamala Harris, le secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, et d'autres hauts responsables américains, de s'entretenir avec les dirigeants africains. Le président Ouattara se fera accompagner par une forte délégation, vous imaginez. Donc, il y aura beaucoup de possibilités d'échange et je suis convaincu, moi, que le président Ouattara, qui est reconnu comme une sommité, aura beaucoup à dire, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique tout entière, en cette période où il y a des défis multiples que les États-Unis veulent vraiment aider l'Afrique à surmonter.
Alors, vous le disiez tantôt, Excellence, que c'est le deuxième sommet de ce type, puisque en 2014 déjà, le président Barack Obama avait reçu des dirigeants africains. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à même de faire un bilan de 2014 à nos jours sur les acquis de cette rencontre de haut niveau?
En fait, l'Afrique est un continent et il est organisé en États souverains, comme le reste du monde. Et donc, chaque pays a sa spécificité. Les États-Unis respectent la souveraineté de chaque pays. Mais ce que l'administration Biden veut renforcer encore davantage, c'est l'esprit de partenariat plutôt que de donateur et assisté. Non, non, depuis longtemps déjà, nous parlons plutôt en termes de partenariat. Et le président Biden veut renforcer cela pour les années à venir. Et cela passe par vraiment écouter ce que les homologues ont à dire. Pas seulement leur parler, mais aussi les écouter.
Alors, 45 chefs d'État et de gouvernement africains ont confirmé leur participation à ce rendez-vous qui sera présidé, comme vous-même vous l'avez dit tantôt, par le président Joe Biden. Mais qu'en est-il des hommes d'affaires? Parce que l'Afrique, c'est pas que le politique. Il y a aussi les hommes d'affaires, il y a l'économie. Et quelle est leur place dans ce sommet?
Comme j'ai dit, il va y avoir des événements avec le secteur privé, des événements avec la société civile. Le secteur privé américain s'intéresse beaucoup. Et donc, vraiment, il va y avoir beaucoup de possibilités d'échange. Et vous savez, pour qu'un pays progresse, il a besoin d'investissement. Et comme je le dis toujours, mais il ne faut jamais l'oublier, investir, c'est dépenser en croyant que ça va rapporter à l'avenir. C'est-à-dire, c'est une dépense basée sur l'optimisme. Si on ne croit pas en l'avenir, on ne l'effectue pas, cette dépense. Et moi, j'ai vécu dans des pays où il y a très, très peu d'investissements. Heureusement, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est un pays qui, de plus en plus, attire l'intérêt des investisseurs. Pas seulement des États-Unis, même pas principalement des États-Unis, qui ont le désavantage d'être loin et de ne pas être un pays francophone. Mais il y a, de plus en plus, d'intérêt de la part du secteur privé américain, parce que, justement, la croissance économique forte de la Côte d'Ivoire pendant plus d'une décennie impressionne. Et les efforts que je salue pour renforcer la stabilité de ce pays sont remarqués. Et là, permettez-moi de féliciter et d'encourager tous les membres de la classe politique, tant de l'opposition que de la mouvance présidentielle, pour tous leurs efforts actuels visant à promouvoir la stabilité dans ce pays. Et je crois que le moment est très bien choisi pour se concentrer là-dessus, avant que la prochaine grande échéance électorale, l'élection présidentielle de 2025, n'approche. On est encore à 3 ans. Mais l'année prochaine, il va y avoir les élections locales, et ça, ce sera une borne kilométrique, si je puis dire, sur la route du processus politique, et ce sera une belle occasion de voir est-ce que ça va bien. Si oui, ça donne un vrai soutien à la mouvance démocratique. Si ça ne va pas très bien, il y a encore le temps de corriger avant la grande échéance.
Excellence Richard Bell, est-ce que ce sommet ne ressemble pas à du déjà vu, à l'image des sommets Afrique-Europe, Afrique-Chine, Afrique-Russie? Cette rencontre de haut niveau, qu'est-ce que ça peut apporter au quotidien de nos populations, des Africains?
Alors j'espère que ça apportera une meilleure compréhension de la part des dirigeants américains de ce que les partenaires africains attendent de nous et quels sont les défis, quel est le rôle qu'ils nous voient jouer. Vous savez, pour réussir, il faut vraiment que chacun joue son rôle. La réussite de notre coopération à l'étranger dépend in fine de l'engagement des parties prenantes du pays hôte. Nous ne pouvons pas réussir à leur place. Nous sommes là pour les aider à réussir, mais pas pour réussir à leur place parce que c'est leur pays. Et donc, écoutez les dirigeants africains qui, je pense, iront à Washington bien préparés à faire comprendre aux dirigeants américains les points essentiels. Je crois que ça va aider la partie américaine à mieux orienter sa participation au développement, au progrès de ses partenaires africains. Je l'espère en tout cas.
Alors, dernière question sur ce sujet. C'est la question sécuritaire qui reste prioritaire et transversale sur le continent. Sauf oubli de ma part, Excellence, je ne l'ai pas vu inscrit à l'ordre du jour. Qu'en est-il réellement, la question sécuritaire?
Il y aura beaucoup de discussions autour des défis sécuritaires parce que la stabilité implique la sécurité. S'il n'y a pas la sécurité, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a la stabilité. Et il y a des menaces réelles d'ordre sécuritaire. Et là, je salue la vision du leadership ivoirien qui dit que la clé de la réussite, c'est que l'État ait et garde le soutien de la population. Et ça, je crois que c'est vraiment l'essentiel. Et là, je peux vous dire que les États-Unis ont une nouvelle stratégie de prévention des conflits et de promotion de la stabilité qui commence à nouer des partenariats sur une perspective de 10 ans, y compris avec 5 pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, allant de la Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin. Alors ce sont des pays côtiers qui sont menacés par l'extrémisme violent en provenance du Sahel, mais il n'est pas encore trop tard pour vraiment faire de la prévention dans ces pays côtiers. Et nous sommes en soutien aux plans, aux stratégies, aux activités, aux programmes de chaque État souverain. Et la Côte d'Ivoire a des plans bien développés. Hein. Il y a le plan national de développement, PND, il y a le plan social du gouvernement 2, PSGouv. Et donc nous sommes en appui aux initiatives ivoiriennes.
Autre sujet de notre entretien, la lutte contre le VIH-SIDA et la contribution des États-Unis dans cette lutte. Rappelons que le 1er décembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre le VIH-SIDA. Selon des chiffres de l'ONU et SIDA à ce jour, un tiers des contaminations au VIH chez les enfants et 39% des décès dus à des maladies liées au SIDA parmi les enfants ont lieu dans notre région. La stigmatisation et la discrimination très prévalent impacte particulièrement fortement les jeunes. Votre commentaire sur ça?
Alors, depuis 2004, les États-Unis soutiennent la lutte contre le VIH-SIDA dans ce pays à hauteur de plus de 100 millions de dollars par an. Ça fait plus de 1,7 milliard de dollars pour la seule lutte contre le VIH-SIDA. À ce jour, les contribuables américains financent les deux tiers de la lutte contre le VIH-SIDA dans ce pays. Et il y a des résultats. Il y a plus de 220 000 personnes qui ont le virus VIH et qui suivent le traitement qui est tellement efficace qu'ils ne peuvent plus transmettre le virus. Leur charge virale est tellement réduite. Ça signifie que ça protège non seulement la santé de ces 220 et quelques mille personnes, mais ça protège des personnes innocentes qui autrement seraient infectées par eux. On ne peut pas compter leur nombre. Mais c'est sûrement un grand nombre, hein. Ça dépasse sûrement 100 000. Alors, ceux qui sont faciles à dépister ont déjà été dépistés. Pour suivre le traitement, il faut être dépisté. C'est-à-dire que pour suivre le traitement, il faut savoir qu'on a le virus. Il reste, on estime, quelque 80 000 personnes qui ont le virus mais ne le savent pas. Ceux-là sont les plus difficiles à trouver. Et justement, la stigmatisation, c'est ce qui les décourage, c'est ce qui les empêche d'aller se faire dépister. Alors, mon message pour eux, c'est ne craignez rien, la confidentialité est assurée, le traitement est gratuit et il consiste en une pilule par jour et vous pouvez obtenir jusqu'à 6 mois de pilule en une seule fois. Mais j'ai aussi un message pour tous ceux qui exercent une influence dans la société, au sein de la communauté, et notamment les leaders religieux. Merci de lutter contre la stigmatisation. Parce que tous ont un intérêt à ce que les personnes qui ont le VIH aillent se faire dépister pour protéger les innocents, pour qu'ils n'infectent pas, par accident, d'autres personnes, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont le virus et donc ils ne prennent pas les précautions idoines. Et il y a quelques jours, cette semaine, j'ai eu le privilège d'accompagner M. le ministre de la Santé lors d'une rencontre avec des chefs religieux pour vraiment les remercier pour le rôle qu'ils jouent déjà dans ce sens pour lutter contre la stigmatisation.
Excellence Richard Bell, votre pays, les États-Unis, viennent de vivre des joutes électorales de mi-mandat, sans heurts ni violence. En Côte d'Ivoire, on organise en ce moment même la révision de la liste électorale, puis des élections locales en 2023 et la présidentielle en 2025. Quel est votre regard sur le processus démocratique en Côte d'Ivoire?
Alors j'encourage tous les Ivoiriens à aller s'enrôler sur la liste des électeurs, mettre à jour leurs informations, par exemple leur adresse s'ils ont déménagé, et à participer activement. Et je félicite l'ensemble de la population ivoirienne pour la bonne tenue des élections législatives du mois de mars 2021, avec la participation la plus inclusive au niveau des différents partis politiques que ce pays a vu depuis longtemps. Parce que la démocratie, vous savez, d'après les sondages, les deux tiers des Africains disent qu'ils veulent la démocratie. Je ne sais pas si tout le monde a vraiment une idée très claire de ce que c'est que la démocratie, parce que la démocratie, c'est quelque chose d'extraordinaire et de pas du tout naturel. Ce qui est naturel, c'est l'abus de pouvoir. La démocratie, c'est respecter la voix de ceux qui n'ont pas le pouvoir. Les pauvres, les minorités. Et ce n'est pas naturel. C'est un acquis énorme quand une société a la démocratie, réellement. Ça veut dire que ceux qui ont le pouvoir acceptent de risquer de perdre le pouvoir si la majorité le veut. Et dans une vraie démocratie, ce n'est jamais la catastrophe de perdre une élection parce qu'il y a toujours la prochaine élection. On peut perdre aujourd'hui et puis gagner la prochaine fois. Et c'est ça qui fait l'intérêt de la démocratie. Pourquoi démocratie ? Parce que ceux qui détiennent le pouvoir se sentent davantage redevables. Ils doivent démontrer des résultats s'ils veulent se faire réélire. Si la population n'est pas satisfaite de leur performance, elle a le choix. Elle peut voter pour quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui motive tous ceux qui ont le pouvoir à ne pas s'endormir sur leur laurier, mais à rester vraiment engagés au profit de la population. La population, c'est les électeurs.
Quelle est votre appréciation du respect des droits de l'homme en Côte d'Ivoire ?
Alors, il n'y a pas de pays parfait au monde, mais en Côte d'Ivoire, il y a la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté d'association, ce qui permet d'identifier, de montrer quand il y a un problème. Ça, c'est très sain. Parce que quand on cache les problèmes, évidemment, on ne cherche même pas à les résoudre. Mais quand on étale les problèmes au grand jour, ça motive les autorités et les autres à œuvrer pour résoudre les problèmes. Alors, si vous voulez une société jolie à la surface, réprimez toute dissidence. Empêchez tout le monde de critiquer le pouvoir. Ça fera joli à la surface, mais ce sera pourri derrière la surface. Parce que les problèmes seront encore là, puisqu'ils sont cachés, personne n'essaye de les résoudre. Donc, le prix à payer pour une société libre, démocratique, avec le respect des libertés individuelles, c'est que ce n'est pas toujours joli. Quand il y a des problèmes, on les étale au grand jour, on en parle, on n'est pas content, on milite, on fait des plaidoyers. Mais c'est comme ça, dans le monde réel, qu'on obtient le progrès. Ceux qui détiennent le pouvoir n'ont plus le droit de s'endormir sur leur laurier, d'être autosatisfaits parce qu'ils sont critiqués, ils sont évalués. Ça, c'est très sain. Donc, apprécier cela sans en faire toujours un drame, c'est sain aussi. Et en Côte d'Ivoire, je vois que maintenant, on peut critiquer jusqu'au chef de l'État sans se faire mettre en prison. Il y a encore des problèmes à résoudre. J'ai eu des ministres qui m'ont dit à huis clos qu'ils savent qu'il y a des problèmes avec les comportements parfois de certains agents de l'État, surtout quand ils sont loin de leur hiérarchie et que personne ne regarde de près. Mais ils sont conscients de cela. Pour eux, c'est un problème. Ce n'est pas remarquer le problème qui est un problème pour eux. C'est le comportement des agents qui est un problème pour eux. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon parce que comme ça, on peut prendre des mesures. Donc, je ne serai pas assez arrogant pour donner une note à ce pays, mais je vois que la protection des libertés, c'est l'approche qui donne les meilleurs résultats à long terme. Et j'incite, j'encourage tout le monde à défendre vraiment les libertés qui sont si précieuses pour l'avenir du pays.
Fin de cette interview. Merci, Excellence, Monsieur Richabel, pour le temps consacré à Radio de la Paix. Et nous vous souhaitons un très bon sommet États-Unis-Afrique qui se tiendra, bien entendu, du 13 au 15 décembre 2022 à Washington.
Merci beaucoup.
Bon retour à vous.
Merci.
Ben Diakité. Réalisation Antoine Kouassi. Vous venez de suivre la grande interview.